France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Mazette. Quelle musique ! Très vite, ce n'était plus le début de la marche funèbre de la 5e symphonie de Mahler. Au tout début d'une répétition de cette symphonie à Pékin, le 25 novembre 2018, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Gustavo Dudamel, prenait par surprise l'excellent Klaus Wallendorf, corniste de grand talent et poète, en lui souhaitant en musique un joyeux anniversaire. Nous sommes aujourd'hui le troisième dimanche du mois, consacré donc ici aux problématiques de la vie pratique. Et comme l'annonçait cette entrée en matière musicale berlino-pékinoise, la question du jour concerne les anniversaires. Faut-il ou non les fêter ? Aux alentours de 3 heures, nous aurons nos badineries, désormais coutumières, et nous fêterons un anniversaire de 280 ans. Nous tâcherons aujourd'hui encore de ne pas rater la correspondance de 15h21, il faut mieux être bien en avance. Et aujourd'hui, la correspondance doit nous mener à Munich et à Rochefort. 17 octobre 2021. Il y a 240 ans, le mercredi 17 octobre 1781, Mozart achève l'andante sublime de sa sonate pour deux pianos. Les experts restent évasifs sur l'heure précise de l'achèvement. Gabriele Baldocci est au premier piano et Martha Argerich au second.
Thank you.
Mazette, quelle musique ! Heureux 17 octobre 1781. Disons plutôt exactement le 17 octobre 1771, il y a 250 ans donc, au Teatro Regio Ducale de Milan, c'est la première de la fête théâtrale en deux actes Ascanio in Alba, composée par Mozart également, jeune adolescent de 15 ans. Et 10 ans encore plus tôt, le samedi 17 octobre 1761, au Théâtre de la Porte de Carinthy dans la Vienne de Marie-Thérèse, impératrice sans pouvoir l'être comme on le sait, c'est la création d'une œuvre magnifique du chevalier Christoph Willibald Gluck, son ballet Don Juan ou le Festin de Pierre, partition un peu négligée par la postérité, mais le compositeur savait lui très bien la grande valeur et beauté de cette œuvre et il n'hésitait pas à réemployer tel ou tel morceau, par exemple la Danse des Furies qui conclut le ballet et qui, après avoir saisi d'une délicieuse horreur les spectateurs du 17 octobre 1761, remplira de stupéfaction le public parisien d'Orphée et Eurydice 13 ans plus tard. L'ensemble Pygmalion, dirigé à main nue par Raphaël Pichon, va nous faire entendre cette Danse des Furies. Tiens donc, mais cela vous fait 37 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, maestro!
Thank you.
Le 17 octobre fut une date importante pour un autre génie de notre histoire musicale, Jean-Sébastien Bach. En effet, plusieurs de ses œuvres furent achevées ou créées un 17 octobre. Plusieurs cantates, bien sûr. Également un de ses très hauts chefs-d'œuvre, la Trauer Ode, l'Ode funèbre, qui fut jouée le 17 octobre 1727 pour la très solennelle oraison funèbre qui eut lieu à Leipzig ce jour-là à la mémoire de la princesse Christiane Eberhardine, la très populaire épouse d'Auguste le Fort, électeur de Saxe, élu roi de Pologne. Elle était très populaire, notamment pour avoir renoncé à être reine de Pologne en refusant d'abandonner, pour la foi catholique, la foi luthérienne de ses sujets de Saxe et de Thuringe. Christiane Eberhardine et Auguste le Fort étaient les parents de celui qui devint Frédéric Auguste II de Saxe et Auguste III de Pologne, puisqu'il fut assez fort lui aussi pour se faire élire roi de Pologne, non sans quelques rebondissements et une bonne guerre européenne. Il était né le 17 octobre 1696, si bien qu'après son accession à l'électorat en 1733, Bach, à plusieurs reprises, composa pour l'anniversaire du monarque des cantates et des opéras miniatures qui furent créés son jour anniversaire, le 17 octobre. Mais pour Bach, le 17 octobre est également un jalon très important du calendrier familial, disons, puisque c'est le 17 octobre 1707 qu'il épouse sa cousine Maria Barbara dans la charmante église Saint-Barthélemy de Dornheim, église où, un an plus tard, il donne une de ses toutes premières cantates à l'occasion du remariage du pasteur qui avait célébré un an plus tôt, j'espère que vous me suivez, le mariage de Johann Sebastian et de Maria Barbara. Que le Seigneur vous bénisse toujours davantage, vous et vos enfants. Alors, faut-il fêter les anniversaires de mariage? Bonne question, pas si simple. Maria Barbara fut la mère de 7 enfants, dont 4 parvinrent à l'âge adulte, notamment l'excellent Wilhelm Friedmann Bach et surtout le génial Carl Philipp Emanuel Bach, grand compositeur de l'âge des Lumières. Et Maria Barbara meurt très soudainement en juin 1720. Bach n'est pas là à ce moment-là, il est en Bohême, à Karlsbad, où il avait accompagné son employeur, le prince Léopold d'Anhalt-Köthen. Il apprend le décès de sa femme en revenant, elle est enterrée depuis 10 jours. Plusieurs œuvres, notamment la prodigieuse et saisissante Fantaisie et fugue en sol mineur, garderont le souvenir dramatique de ces événements et de la crise que Bach va traverser. Néanmoins, suivant les bons conseils ancestraux de Luther lui-même, et puis la situation familiale l'y pousse évidemment, Bach se remarie à la fin de l'année suivante, en 1721. Il épouse Anna Magdalena, elle-même musicienne, et qui va être pour Bach jusqu'à sa mort en 1750, une épouse bien aimée, une confidente et sa première collaboratrice. Faut-il fêter l'anniversaire du premier mariage lorsque d'autres unions suivent ? En 1945, le 17 octobre exactement, Ava Gardner, vous avez constaté que nous avons franchi l'Atlantique et de Thuringe, nous sommes passés à Hollywood. Ava Gardner donc épouse Arthur Jacob Arshowski, alias Artie Shaw, un des plus brillants clarinettistes et chefs d'orchestre de jazz de l'époque. Il a été marié pendant tout un semestre en 1940 avec Lana Turner, celle que la presse à sensation appelait la bombe fatale, et puis s'est engagé en 1942 pour aller soutenir le moral des soldats américains dans le Pacifique. À son retour à Hollywood, il séduit Ava Gardner. En 1945, Gardner n'est pas encore une star. Il faudra attendre le film Pandora en 1951 pour qu'elle devienne une des stars mythiques du cinéma mondial. Elle avait été elle-même mariée pendant 16 mois avec Mickey Rooney. Et elle tombe sous le charme d'Artichaut qu'elle traite plus tard de voyou absolu. Et il faut dire qu'il était d'un machisme massif et inébranlable. Ils divorcent moins d'un an plus tard. Mais elle confie un peu plus tard aussi que de ses trois maris, le troisième sera Frank Sinatra, c'est pour Artichaut qu'elle a le plus d'admiration. Il était invivable, mais c'était un être de grande valeur. Un homme extraordinaire. Ava Gardner fêtait-elle le 17 octobre de chaque année, l'anniversaire de son mariage avec l'homme qu'elle aimait? Qui le sait? The Man I Love, Artichaut et son orchestre. Certains anniversaires musicaux nous remplissent de tristesse, mais ne faut-il pas tout de même les célébrer? Ainsi en est-il du sombre, du très sombre 17 octobre 1944, qui vit la mort de Hans Krása, Viktor Ullmann et Pavel Haas, trois compositeurs tchèques, très talentueux et très imaginatifs. Ils avaient été déportés en 1941 et 1942 au camp de concentration de Theresienstadt. Vous savez, c'est le camp de concentration que la propagande nazie tentera de présenter comme une prétendue colonie juive modèle, notamment pour les artistes. Les trois compositeurs y écriront de nouvelles œuvres, par exemple l'Empereur de l'Atlantide d'Ullmann, et puis surtout ils donneront beaucoup d'œuvres plus anciennes, notamment l'opéra Brundibar de Krása. Dans la nuit du 16 octobre 1944, Krása, Ullmann et Haas sont envoyés en chemin de fer à Auschwitz et ils meurent dès le lendemain, dès le jour de leur arrivée, le 17 octobre, dans la chambre à gaz. En souvenir de ces admirables compositeurs, je vous propose d'écouter une scène du très bel opéra achevé par Krasa en 1930, Verlobung im Traum, fiançailles en rêve, d'après une nouvelle de Dostoïevski, Le rêve de l'oncle. Sina, jeune fiancée très courtisée par plus d'un d'ailleurs, se laisse convaincre de séduire un vieux prince très riche et mal en point, en vue de l'épouser en espérant que la mort ne tarde pas. Dans cette scène de séduction, c'est par son chant, et nous allons entendre lequel, que Sina cherche et parvient à subjuguer le vieillard un brin gâteux. La suite de l'histoire n'est pas pour aujourd'hui. C'est un peu sarcastique, c'est très amusant, c'est fort bien mené, et puis nous l'écoutons, c'est une mise en abyme musicale on ne peut plus divertissante. Délicieuse ironie de Castadiva, chantée par une toute jeune fille pour émoustiller le vieux prince. L'occasion de saluer ces jours-ci à mi-octobre les 190 ans de l'achèvement du premier acte de Norma, dont Castadiva. Même sans les atroces circonstances historiques et personnelles de 1944, la mort d'un compositeur est un moment délicat, faut-il ou non le célébrer ? En 1849, l'état de santé de Frédéric Chopin décline rapidement, la tuberculose progresse, les crises d'hémoptysie se font plus fréquentes et plus graves. Après plusieurs jours d'agonie suite à une péricardite, Chopin meurt le 17 octobre 1849 à 2h du matin, entouré de ses amis qui se sont rassemblés dans l'appartement de la place Vendôme à Paris. Parmi les manuscrits trouvés à sa mort figure une belle et triste mazurka en fa mineur. Longtemps, elle a été considérée comme l'ultime inspiration de Chopin sans qu'on en ait vraiment la preuve. Le manuscrit perdu a été retrouvé et édité en 1951 et nous écoutons cette ultime mazurka sous les doigts d'Arturo Benedetti Michelangeli, sublime et poignant. Thank you. Quelle musique, quelle tristesse infinie. Spasiba Igor Fyodorovitch, compositeur et interprète de ce Happy Birthday tout à fait revigorant. Un cadeau d'anniversaire écrit en 1955 pour le 80e anniversaire de Pierre Monteux, créateur entre autres de Petrouchka et du Sacre du Printemps. Stravinsky, toujours très à cheval sur ses propres droits, ne décoléra pas lorsqu'il comprit qu'il devrait verser une redevance à la Same Company qui en 1935 avait eu l'heureuse idée de déposer les droits de cette chanson que Stravinsky pensait être une chanson populaire tombée dans le domaine public. Alors, à quelle compositrice ou compositeur pourrions-nous souhaiter aujourd'hui un très joyeux anniversaire? Quelqu'un de bien vivant, évidemment. Eh bien, à Martín Matalón, brillant compositeur porteño, qui fait partie de ces Argentins qui ont adopté la France et Paris, et réciproquement. Ce 17 octobre 2021, Matalón a 3 fois 3 fois 7 années. 3 fois 3 fois 7, ça doit être quelque chose de parfait, sans doute. Pour fêter cela joyeusement, nous écoutons Atlas Biográfico. De circonstances, n'est-ce pas? Et pas besoin de traduction. Cette pièce fait partie des Monedas de Hierro, issue de Rosa Profunda, la musique composée par Matalón pour l'exposition que le Centre Pompidou avait consacrée en 92-93 à un autre très grand argentin et porteño, très francophile, José Luis Borges. Dans Atlas Biográfico, la flûte, c'est-à-dire Borges lui-même, se mêle à un kaléidoscope de couleurs, une musique pleine d'alacrité. Thank you. Joyeux anniversaire donc pour les personnes musiciennes, musicales, physiques ou morales en pleine forme dont la naissance date du 17 octobre. C'est le cas de l'Orchestre Symphonique de Chicago, un des meilleurs orchestres américains, peut-être un des deux meilleurs, il faudrait consulter Christian Merlin. Le premier concert de l'orchestre eut lieu le 17 octobre 1891. Et à plusieurs occasions, pour fêter cet anniversaire marquant, des commandes furent passées à des compositeurs contemporains. Ainsi, à l'occasion du 50e anniversaire de l'orchestre, Stravinsky fut sollicité et il composa sa symphonie en ut. Nous écoutons la réexposition et la coda du premier mouvement, Moderato alla breve. C'est naturellement l'Orchestre Symphonique de Chicago qui va l'interpréter, dirigé par un de ses plus grands chefs, Georg Solti. C'est également une façon de rendre hommage à Stravinsky mort il y a 50 ans, mais pas un 17 octobre, nul n'est parfait. 100 ans, c'est l'âge d'une institution toute juvénile, le Festival de musique nouvelle de Donaueschingen en Allemagne. Donaueschingen, c'est une petite ville de la Forêt Noire où deux ruisseaux, la Brègue et la Brigar, se rejoignent pour former le Danube. Et la source officielle du Danube se trouve dans le parc du château des princes de Fürstenberg à Donaueschingen. C'est le prince Max Egon de Fürstenberg, deuxième du nom, qui d'ailleurs fut l'instigateur de ce festival. Et depuis des décennies, le festival se déroule chaque année à la fin de la troisième semaine d'octobre. Cette année, cela aurait dû être du 14 octobre à aujourd'hui, 17 octobre, aurait dû être parce que, comme en 2020, le festival a été annulé en raison des circonstances sanitaires. Cela ne nous empêchera pas de fêter le centenaire de cet extraordinaire festival avec un extrait de la première œuvre donnée lors du premier concert en 1921. Nous écoutons la fin marquée « Sehr lebhaft » très vivement du troisième quatuor de Pauline Demit. Pauline Demit, un compositeur que nous n'avions pas encore rencontré dans nos escapades dominicales. L'anniversaire de certains événements de l'histoire et de la vie contemporaine qui n'ont pas de rapport évident avec l'art musical mérite-t-il pourtant d'être fêté en musique ? Le 17 octobre, c'est par exemple la journée mondiale de lutte contre la pauvreté depuis 1987. C'est aussi une date qui est marquée, par exemple, par le souvenir du point levé des athlètes américains au JO de Mexico en 1968. Mais en cette année 2021, c'est le 60e anniversaire d'un événement majeur. Moins sombre que la nuit d'horreur du 17 octobre 1961 à Paris, en pleine guerre d'Algérie. C'est le 60e anniversaire aujourd'hui de l'ouverture du 22e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Alors vous craignez sans doute que subrepticement nous ayons basculé dans une émission historique ou politique. Non ! Si cette date est importante en musique, c'est parce que grâce aux décisions prises au cours de ce congrès du 17 octobre 1961, a pu sortir des limbes une des plus puissantes œuvres de Dimitri Chostakovitch et de tout le répertoire symphonique du XXe siècle. Il s'agit de la 4e symphonie de Chostakovitch, et dans le climat de terreur stalinienne dont Chostakovitch fut la cible, parmi beaucoup d'autres, l'œuvre écrite en 1934 fut détruite, puis réécrite, mise en répétition, mais retirée à la veille de son exécution en 1936, et enfouie depuis, jusqu'à ce que, suite à ce 22e congrès, la nouvelle politique de Khrouchtchev permette la réapparition de l'œuvre et sa création à Moscou en décembre 1961, puis à l'Ouest en 1962. Nous écoutons le presto qui conclut cette œuvre, je trouve une des plus belles et saisissantes du compositeur, une œuvre parcourue de réminiscences des premières et troisièmes symphonies de Gustav Mahler, du Chant de la Terre d'ailleurs aussi, comme nous allons l'entendre à la fin. D'abord des roulements de timbales, puis un grand choral de cuivre et de tout l'orchestre, fortissimo, en une apothéose qui pourrait devenir triomphale, mais qui retombe très vite, sur une pulsation incessante et pianissimo des timbales, une mélodie entêtante qui commence par un arpège non résolu, une carte juste et une carte augmentée. Mélodie entonnée au bois, reprise plus tard par la trompette, puis au célestat jusqu'au silence, une impression glaçante de désastre létal.
Thank you.
Nombre d'œuvres musicales sont des œuvres d'anniversaire, soit parce qu'elles ont été composées pour célébrer l'événement, soit parce qu'elles reposent sur la représentation d'un anniversaire. Ainsi en est-il par exemple du beau et cruel Nain de Zemlinsky, d'après l'anniversaire de l'infante d'Oscar Wilde, ou de Capriccio. Capriccio, c'est le dernier opéra de Richard Strauss. Il s'agit de la préparation du spectacle d'anniversaire de la comtesse Madeleine et ça sert de prétexte à une subtile et splendide conversation musicale dont le thème en réalité est le vieux débat éternel entre les tenants de la primauté du texte et ceux qui défendent la primauté de la musique. On trouve également de belles scènes d'anniversaire dans le répertoire français, par exemple chez Offenbach. Là, nous allons écouter une œuvre vocale de moindre ampleur, mais dont le propos est bien un anniversaire. Un petit joyau, me dit-on, d'art lyrique français, ce qui va évidemment nous combler, nous qui sommes admirateurs et défenseurs zélés de l'art lyrique français. C'est une pièce délicate d'inspiration religieuse, précise la petite fiche que j'ai devant les yeux.
Sœur Marie-Louise, viens la voir 40 ans. Sœur Marie-Louise, c'est la fête au couvent. Chantons, chantons joyeusement pour la sœur Marie-Louise. Un peu brutale par moment, mais qui nous aime tant. Mais voilà qu'au milieu de la fête, les gendarmes sont venus tout à coup. Ils ont dit, faut que l'on arrête quelqu'un qui s'est caché chez vous.
Sous le nom de sœur Marie-Louise, un jeune escroc de 32 ans.
Mais les religieuses un peu surprises ont dit,
vous vous trompez sûrement. Sœur Marie-Louise vient d'avoir 40 ans. Sœur Marie-Louise n'est pas votre client, car nous fêtons les 40 ans de la sœur Marie-Louise. Un peu brutale par moment, mais qui nous aime tant.
Trois mois plus tard.
Messieurs, la cour. Silence, je fais évacuer la salle.
Tout le monde s'est levé dans l'assistance.
Avec une barbe de 8 jours, Marie-Louise attend la sentence.
Le président dit d'une voix lente,
Crépin Joseph.
Présent.
Crépin Joseph est condamné. Vu les circonstances atténuantes, silence ma sœur.
Oui, ma tante.
À 40 ans de travaux forcés.
À combien ma sœur? À 40 ans, ma mère!
Sœur Marie-Louise vient d'avoir 40 ans. Sœur Marie-Louise va changer de couvent. Chantons, chantons bien tristement pour la sœur Marie-Louise. Un peu brutale par moment, mais qui nous aime tant.
Sur le coup de 3 heures, l'heure des badineries est le début d'un nouveau petit feuilleton qui viendra s'entrecroiser avec ceux que nous avons déjà entamés au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, 17 octobre 2021, selon les spécialistes, c'est le 280e anniversaire des variations Goldberg, achevé et publié en 1741. Un des secrets bien gardés de l'œuvre est que la 29e variation rendrait fou. Menons l'enquête. D'abord, une version, disons, normale, celle que la critique encensa à sa parution au milieu des années 1980. C'est la grande pianiste et pédagogue Maria Tippo.
Thank you.
À présent, plusieurs versions enchaînées. D'abord, celle longtemps considérée, dans les années 60 et 70, comme la version de référence, enregistrée en studio en 1956 par un excellent pianiste canadien, un peu chanteur aussi, et dont les initiales sont GG, pas Gérard, mais GG. Le même ensuite enregistré sur le vif au Festival de Salzbourg le 25 août 1959. Une version, je cite, « solaire et définitive de l'œuvre ». Une ardeur furieuse, quasiment balinaise, pourrait-on dire. D'ailleurs, rien ne permet d'affirmer avec certitude que notre pianiste n'a pas mâché une ou deux feuilles de cratonne de Bali avant de s'asseoir sur sa petite chaise en contrebas du clavier. Un peu trop là, non ? La 29e variation rend fou, mais tout de même. Bien aussi. Pour achever ce premier épisode de ce nouveau feuilleton, retour au piano. Plus fort, plus rapide encore que Glenn Gould et avec toutes les reprises indiquées par la partition. Une virtuosité digitale étincelante, une 29e variation tenue, menée sans reprendre son souffle, avec une musicalité transcendante, mazette, quelle musique ! Andrei Gavrilov en 1993. Thank you. ouf, vraiment ouf. Et au clavecin, la 29e variation rend-elle fou également? Et pourquoi d'ailleurs rend-elle fou? Réponse dans les prochains épisodes.
Mazette, quelle musique? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Reprenons notre quête du jour s'agissant des anniversaires. Une des plus belles scènes d'anniversaire en musique de l'histoire de l'opéra est l'anniversaire de Tatiana. Une très belle fête, manifestement, mais qui prend un tour tragique. Et quelques scènes après, on se demande s'il n'aurait pas valu mieux que cet anniversaire ne fût pas fêté, ou à tout le moins que Jean Onéguine, il s'agit bien de lui, renonçât à se rendre à cette brillante soirée. Il aurait été bien inspiré de lire Pouchkine avant d'y aller. Négligeant courageusement la scène centrale du premier acte, la scène de la lettre, à mes oreilles c'est peut-être ce que Tchaïkovski a composé de plus beau avec l'andante de la 5e symphonie, nous allons donc directement au début du deuxième acte, à Saint-Pétersbourg, dans les salons de Madame Larina, où se déroule le bal pour l'anniversaire de Tatiana. La grande valse à l'ancienne manière est suivie des couplets de Monsieur Triquet, le vieux précepteur français, couplets qui sont dédiés à Tatiana. De celle dont le jour est fêté, admirons le charme et la beauté, briller, briller, toujours belle Tatiana. Il faut faire la diéresse. C'est Michel Sénéchal qui, de ce petit rôle, a fait sur les scènes lyriques du monde une grande chose. C'est lui qui va chanter ses couplets, Poète na Francus comme en français, bien sûr.
Наслушаться паволай, а раз не сплетен мерзкий, валило мне все это, зачем приехал я на этот дурный бал, зачем? Я не прошу, ради услугу эту, ухажем от Олгой, мечту его порядка, о да, прошу вас. Вы обещали мне, теперь ошибся на груди. А что такое, глазам не верю, Ольга, Боже, что со мной?
Sorry.
la correspondance de 15h21. Ne ratons pas la correspondance de 15h21. Aujourd'hui, la correspondance nous conduit à Munich le 17 octobre 1810, il y a exactement 221 ans. Louis Ier de Bavière organise sur une grande prairie au sud-ouest de la ville une course hippique pour célébrer son mariage avec Thérèse de Saxe-Hildburghausen. La prairie s'appellera désormais la Thérésienwiese, la prairie de Thérèse. Ce 17 octobre 1810, c'est donc la première Oktoberfest, fête d'octobre, qu'à travers le monde on appelle plutôt la fête de la bière de Munich, et à Munich on l'appelle tout simplement la prairie divise. L'arrivée de l'automne, c'est le moment d'écouler les stocks de bière de mars avant la nouvelle campagne de brassage. Sauf quand le contexte sanitaire conduit à l'annuler, l'Oktoberfest a toujours lieu sur la Thérésienwiese, qui n'a plus rien d'une prairie, ni d'une pelouse, et qui est désormais en pleine ville.
Édition Vachette présente Le Petit Lamousse Illustré, le premier dictionnaire de la bière. Répertorié en 552 pages, plus de 10 200 bières différentes en provenance du monde entier, avec pour chacune d'elles une mini canette de démonstration.
Oh, c'est qu'elle est toute petite, cette canette.
Le Petit Lamousse Illustré, c'est également des conseils jardinage et des fiches techniques pour cultiver l'orge et le houblon dans votre maison et fabriquer votre propre bière.
Oh, ça c'est trop long, je préfère aller chez René.
Le Petit Lamousse Illustré, le dictionnaire de la bière, vendu au rayon boisson en pack de 12, avec en cadeau de bienvenue la bière de phoque du Groenland. Servi en esquimau glacé.
Mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce que je vais faire du dictionnaire?
Non, nous n'allons pas repartir sur l'apologie des boissons alcoolisées, en l'occurrence de la bière.
Cette bière est détestable. Allumons la poche.
Lisons-nous.
Et que les plus fous roulent sous la table.
Focalisons-nous plutôt sur le roi Louis Ier, personnage moins illustre que son petit-fils Louis II de Bavière, mais non moins intéressant. Grand mécène des arts et lettres, monarque pas toujours avisé, assez impopulaire, époux volage, il s'affiche avec ses nombreuses maîtresses. En 1847, devenu sexagénaire, il s'éprend de Lola Montes, irlandaise, autopromue artiste-danseuse espagnole, courtisane, très introduite dans les milieux artistiques, notamment parisiens, Liszt, Dumas, etc. Après ses aventures en Bavière, elle filera aux États-Unis puis en Australie. En 1848, Louis Ier de Bavière, follement épris, décide d'anoblir Lola et la fait comtesse de Landsfels, puis chanoinesse dans l'ordre de Sainte-Thérèse, avec toutes les rentes qui vont bien avec. Le scandale éclate et en pleines émeutes populaires de 1848, Louis Ier est contraint d'abdiquer. En 1955, Max Ophüls tourne un film sur la vie de Lola Montes. Échec commercial, mais très grand succès critique. La musique du film, nous l'entendons, est de la plume de Georges Auric, un des compositeurs du groupe des Six. Max Ophüls aurait voulu que son actrice préférée, Danielle Darrieux, l'inoubliable Madame II en 1953, soit Lola Montes.
Quand je vous ai vu dans la taverne bleue, Monsieur Hans, croyez-moi, je n'ai plus quitté un seul instant des yeux le piano qui tremble. tremblait sous vos doigts. Vous avez joué jusqu'au fond de mon cœur la rengaine qui traîne dans Vienne. Jamais personne ici, jamais ne l'a joué ainsi. Alors rejouez-moi une dernière fois. La la la, Monsieur Hans, cet air-là.
Mais les producteurs du film imposèrent Martin Carroll, dont ce fut le premier grand rôle et le dernier. Pour autant, comme nous allons l'entendre, Daniel Darieux n'en avait pas fini avec la bière et avec Lola Lola. Un extrait des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, musique de Michel Legrand.
Donnez-moi une bière.
Oui.
Je serai de retour lundi matin. Juste le temps de préparer ma valise et adieu Rochefort.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier renfermant les morceaux de Pélagie Rosier. Une ancienne danseuse des Folies Bergères, premier prix de beauté et de danse légère. Elle avait 60 ans, puis connue autrefois sous le fier pseudonyme de Lola Lola. Elle envoûtait les foules et des salles entières l'acclamaient en hurlant aux soirées de première. On a ouvert la malle et aussi une enquête, on attend les détails, la police est discrète. On pose des questions, on fouille l'entourage afin de découvrir l'auteur du découpage.
Ça te dit quelque chose, ça, Lola Lola?
Jamais connu de danseuse.
France Musique, Mazette, quelle musique? Jean-Yves Larouturou.
Peut-on fêter l'anniversaire de quelque chose d'impalpable, d'ineffable, d'impermanent, quelque chose d'insaisissable comme une improvisation? Par exemple, une sublime improvisation de Keith Jarrett à Paris le 17 octobre 1988, un soir un peu brumeux, où non loin de là, l'arc de triomphe de l'étoile était déjà recouvert de voiles, bleu, blanc, rouge d'ailleurs.
Thank you.
L'émission se termine. Le 17 octobre était finalement une bonne date pour fêter les anniversaires. Comme vous le savez sur la page Mazette, quelle musique du site de France Musique, vous trouvez la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée. La fine équipe avec moi aujourd'hui, rassemblée Olivier Dupré, bien sûr Laurent Lefrançois ainsi que Nelly Portal pour le site. Dans quelques instants, nous serons avec Félicien Bru pour notre brute d'accordéon dominical. Excellente semaine sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.